Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Thomas Rousseau. Il est secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine. Il est également président du mouvement Rennes à droite, candidat à Rennes pour l'espoir rennais au municipal de 2026. Il s'est déclaré. Et il est avec nous ce matin au micro de la matinale. Voilà, on a un petit peu
couru.
Bonjour Thomas Rousseau. On va parler de politique, de grande politique et aussi de politique rennaise, évidemment. J'avais envie de vous entendre sur la grande politique pour commencer à avec ce choix du futur Premier ministre qui se fait encore un petit peu attendre. Le président de la République ménage ses effets. Il reçoit aujourd'hui encore les formations politiques en dehors du RN et de LFI. Est-ce que c'est bien d'attendre ou est-ce qu'il y avait vraiment urgence à avoir un Premier ministre là, maintenant, tout de suite?
Merci Stéphane Hamon de cette question. Déjà, un mot sur le contexte. Avant de parler Rennes, je pense que c'est là l'essentiel. Les Français ont exprimé une volonté profonde de changement sur le fond comme sur la forme l'été dernier au travers des européennes et des élections législatives. Sur le fond et sur la forme. Sur la forme, il y a eu une rupture avec Michel Barnier qui a incarné le respect, l'écoute et, se réancré dans la grandeur de la France. Et après, les Français ont exprimé un choix clair en termes de priorité, plus de sécurité et moins d'immigration, qui a été aussi le cap fixé par notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Donc je trouve qu'il y a eu une avancée positive dans les attentes des Français. Et moi je crois que compte tenu de la situation que vit le pays, c'est important de remettre la machine en marche le plus rapidement possible, en respectant les attentes profondes des Français, encore une fois.
Il y a une forte demande, alors demande de sécurité, évidemment, vous le soulignez Thomas Rousseau, demande sociale aussi, on le voit aujourd'hui, le contexte social, le contexte économique n'est pas au beau fixe. On entend aussi de là des voix, des observateurs, comme l'on dit, qui s'élèvent en disant « oui, mais attention, ce contexte social pourrait faire tomber le prochain gouvernement, le prochain Premier ministre ». Alors est-ce qu'on va aller de chute en chute comme ça?
Je ne l'espère pas pour l'avenir du pays, et effectivement c'est un fait. En l'espace de 30 ans, en termes de PIB par tête, la France est passée de 10e à presque 30e. Donc nous vivons une paupérisation de la France depuis plusieurs décennies, et cela se traduit par 3 millions de chômeurs encore. À Rennes aussi, par exemple, on va en parler après, 19% de taux de pauvreté, où trop de Français ne s'en sortent pas. Ils ont aussi exprimé cette colère au travers des votes pendant les européennes et pendant les législatives, et cela doit être le cap du prochain gouvernement, bien entendu.
Avec quand même le risque, si l'on va de motion de censure en motion de censure, d'avoir des difficultés à diriger le pays, ou alors sauf à avoir un gouvernement technique, ça pose aussi des problèmes au niveau local. Alors on va parler de Rennes, on le disait à l'instant, les grandes agglomérations comme Rennes, mais aussi les départements ou encore les régions s'inquiètent au niveau budgétaire. On leur a demandé des économies, là on va repartir sur le budget de 2024, mais voilà, il faudra néanmoins à un moment ou à un autre faire des économies. Comment arriver à équilibrer des budgets, faire des économies et continuer à investir?
Je prendrai l'exemple, par exemple, de Christelle Morançais, qui a proposé un certain nombre d'économies, un cap courageux. Et à mon avis, le plus important pour le prochain gouvernement, c'est qu'il fixe un cap, une stratégie, une vision, et qu'il aille vers un chemin de désendettement le plus clair possible, et c'est comme ça que nous pourrons retrouver le chemin de la prospérité, de la création de valeur, des entreprises, et c'est comme ça aussi que les Français pourront espérer mieux vivre, en tout cas, et mieux vivre de leur salaire.
Alors Christelle Morançais, pour nos auditeurs qui ne sont pas toujours au fait des noms et des fonctions politiques,
présidente de la région Pays de la Loire,
présidente de la région Pays de la Loire, qui a demandé beaucoup d'économies. Alors en particulier sur la culture. Alors on le voit, ça fait des vagues. J'ai reçu ce matin encore des emails de confrères qui s'inquiètent parce que voilà, on coupe dans les budgets de la culture et c'est important aujourd'hui la culture. Alors pas seulement évidemment, mais est-ce que finalement la coupe est trop drastique?
Moi, je ferai les choses différemment. En termes d'objectifs, évidemment, il faut désendetter. Je prends l'exemple de Rennes, par exemple. C'est un des rares classements dans lesquels elle gagne des places. Elle est maintenant quatrième en termes d'endettement sur les grandes métropoles françaises. Il faut, à mon sens, revoir complètement l'administration et son organisation. Et en revanche, fixer un certain nombre de priorités, transition écologique, famille, culture, et c'est là notamment qu'il faut investir massivement. Donc désendetter, oui, en termes de priorité, je ferai les choses différemment.
Voilà, vous n'auriez pas été aussi brutale peut-être que Christelle Morançais.
Je ne pense pas qu'elle a été brutale. Je pense qu'en tout cas, en fonction des priorités des régions ou des axes fixés, moi en tout cas, ce serait mon axe, ce serait de réorganiser complètement l'administration, et c'est absolument ce que doit faire le futur gouvernement. Proposer un cap d'économie massif pour relancer l'industrie française, par exemple, pour relancer la création de valeur et pour relancer la liberté d'entreprendre. Pour après créer de la richesse et valoriser les valeurs de la France, notamment dans sa culture, dans son identité. Donc investir massivement dans le patrimoine, dans la culture, dans les radios locales. Et c'est ça qui est la vitalité démocratique de notre pays, dans lequel il faut absolument préserver et transmettre.
Alors préserver, transmettre dans le contexte que l'on décrivait en commençant cette interview, Thomas Rousseau, on voit nombre d'industries qui ont décidé de fermer des sites ou de réduire le personnel. Alors ça se traduit par des plans sociaux et toute la détresse humaine qui va avec. Alors on le voit aussi aux alentours de Rennes, il y a une inquiétude hein, par exemple sur le site de la Jeannet. Est-ce que là aussi aujourd'hui il faut mettre j'allais presque dire des barrières de sécurité pour ne pas faire en sorte qu'on ait une hécatombe au niveau social.
Déjà, il me semble essentiel d'avoir une vision et une stratégie claire pour réindustrialiser le pays. Un exemple, et c'est possible en Europe, puisque l'Italie compte 50% de plus d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, que la France. Donc dans le même cadre, dans le même système, nous pouvons réindustrialiser le pays avec la même monnaie. Il faut par exemple revoir la fiscalité sur la transmission. Il faut être beaucoup plus proactif, justement, dans la volonté de produire localement. Et ça, c'est l'un de nos axes que nous allons proposer avec Rennes, avec ma future équipe, avec l'Espoir Rennais, c'est de créer beaucoup plus de valeur industrielle, notamment de safran, faire venir des dizaines de safrans. Et contrairement à l'exécutif municipal local, toute mon équipe est favorable à réindustrialiser localement. Et je pense qu'il y a des forces en Bretagne qu'il faut valoriser, qui sont insuffisamment valorisées, notamment nos savoir-faire locaux, notre créativité d'entreprise. Donc oui, nous devons avoir, et nous pouvons avoir plus de safran dans la région Bretagne et sur la métropole rennaise.
Alors sur la métropole rennaise, il y a un sujet qui vous tient à cœur, Thomas Rousseau, c'est la sécurité. Vous en avez fait, j'allais presque dire, votre cheval de bataille pour cette élection de 2026. On entend beaucoup parler de Rennes avec ce trafic de stupéfiants, ces fusillades parfois. Alors là encore, il ne s'agit pas de dire que Rennes est un coupe-gorge, mais il y a ces problèmes. Comment demain pouvoir éradiquer, par exemple, ou en tout cas limiter le trafic de stupéfiants? Est-ce qu'il faut plus de policiers? Est-ce qu'il faut que l'État investisse plus dans la métropole rennaise et dans la ville de Rennes en particulier? Quelles sont les pistes, finalement?
Alors déjà, sur le sujet priorité et cheval de bataille, oui. La sécurité sera l'une de nos priorités. Je définis 4 thèmes. Rennes en sécurité, Rennes pour tous, nous parlons du social, mieux vivre à Rennes, la qualité de vie, et fier d'être rennais, la culture, le patrimoine, la fierté de vivre en Bretagne. Revenons sur la sécurité, quelques chiffres déjà pour comprendre le contexte. Depuis 2019, l'explosion du trafic de stupes, c'est 150%. Agressions sexuelles, viols, plus de 100%. Cambriolage, plus de 70%. À l'exemple de la France, nous vivons une explosion sans précédent du trafic de drogue, de tout type de violence. Depuis début août, si ce n'est pas des attaques au couteau que nous vivons quotidiennement, ce sont des tirs à l'arme de guerre. Donc il y a urgence, et en constance et en cohérence, je dirais, avec nos idées et notre volonté du régalien, c'est l'aspect gaulliste aussi que je porte, c'est de proposer un plan drastique, massif, notamment en armant la police municipale, et ça c'est possible, même pour les mandatures socialistes, je prends l'exemple de Bordeaux, en triplant le nombre de caméras vidéosurveillance installées pour au moins être au niveau danger, et de doubler les effectifs de police municipale. Et ça c'est essentiel, on va parler du projet globalement, parce que ce n'est pas seulement en doublant les effectifs de police municipale qu'on va endiguer le problème, mais c'est déjà l'urgence laquelle nous allons répondre.
Alors, il y a aussi tout le volet éducatif. On sait que beaucoup de jeunes, par exemple, tombent dans le trafic de drogue ou donnent un coup de main, si vous me permettez le terme, il est un petit peu direct, aux dealers, on pense aux guetteurs dans les cités. Comment faire aussi pour soustraire ces jeunes à l'attirance, finalement, de gagner de l'argent facile?
Mais c'est d'ailleurs pour ça que nous avons appelé notre liste l'espoir rennais, c'est que je pense qu'il faut redonner espoir à la jeunesse. Il faut leur donner les armes de mieux se former, de pouvoir construire leurs projets et leur montrer qu'en France, on peut construire son projet, construire son avenir. Et c'est pour ça que nous allons d'ailleurs investir massivement dans la petite enfance et dans l'école. C'est là qu'un maire peut agir, c'est insuffisant, ce qui se passe d'ailleurs à Rennes. Nous allons proposer un grand plan, c'est l'axe Rennes pour tous, pour les plus fragiles, notamment pour la petite enfance, pour les familles, pour qu'elles puissent donner toutes les chances à leurs enfants.
Alors donner toutes les chances, c'est aussi accueillir tout le monde. Alors ça pose la question, là aussi, de ce sujet qui est très clivant, de l'immigration. On en parle beaucoup depuis quelques jours avec la Syrie et ce qui se passe là-bas en Syrie. Finalement, la fin du régime de Bachar al-Assad, l'arrivée de groupes alors islamistes modérés. Alors je ne sais pas si on peut associer les deux termes. Ça reste à voir dans le temps. Mais beaucoup de Syriens se réjouissent, alors c'est le cas à Rennes, de la chute de Bachar al-Assad. Beaucoup d'autres s'inquiètent aussi, ne vont peut-être pas repartir au pays. Comment faire en sorte, si demain il y avait l'arrivée de nombreux Syriens, comment les accueillir par exemple dans une ville comme Rennes, qui est très ouverte finalement?
En deux mots, il faut accueillir mieux et moins, c'est-à-dire contrôler notre immigration pour mieux accueillir ceux qui sont sur le territoire. Je prends un exemple sur l'histoire des 100 dernières années. Nous vivons trois vagues migratoires. La première vague entre deux guerres, parce que 1 million de morts et 7 millions de blessés. Deuxième vague, les 30 glorieuses. Et depuis une vingtaine d'années, nous vivons une vague migratoire similaire à ces deux premières vagues, alors qu'elles ne sont pas justifiées économiquement. Je prends l'exemple sur les 15 dernières années, nous passons d'un flux migratoire annuel moyen de 150 000, 200 000. Sous Macron, on est autour de 500 000. La France, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur l'aspect social, économique, les problématiques de déclassement et de chômage, ne peut plus se le permettre. Et donc, c'est là que je rejoins et que je soutiens Bruno Retailleau, le contrôle drastique de nos frontières et la reprise en main de notre politique migratoire est nécessaire pour mieux accueillir à Rennes.
Voilà, mieux accueillir, parce qu'il y a aussi une demande sociale, là. Et évidemment, on entend souvent les employeurs, là, on pense au secteur de la restauration, hein, qui ont besoin de main-d'œuvre et qui n'en trouvent pas forcément en France. Et souvent, c'est finalement des employés issus de l'immigration qui font le travail et qui s'intègrent. Il faut travailler aussi sur l'intégration aujourd'hui. On est passé à côté de quelque chose.
Alors, plusieurs choses. Déjà, quand je parlais de mieux intégrer, il est inadmissible de voir à Rennes, l'hiver dernier par exemple, des migrants et des enfants camper au parc des Gailleuls. Ça, c'est inadmissible. Et c'est ce que nous voulons proposer, c'est une vraie politique d'intégration, notamment à Rennes. Deux choses par rapport à ce que vous expliquez, c'est que la politique migratoire doit être recontrôlée, et c'est le sens de mon message justement, que Bruno Retailleau reste au ministère de l'immigration pour aller en ce sens. Nous devons mieux intégrer et notamment proposer une culture commune justement à reconstruire, se réancrer dans nos valeurs, dans les valeurs de la France, dans les valeurs de la nation et être dans le sens de l'accueil et aussi de l'assimilation. Il y a des droits et des devoirs qui doivent être respectés et aussi en ce sens, il faut proposer avec un marché du travail plus souple, plus actif, l'intégration des personnes issues de l'immigration, mais aussi leur proposer l'accueil avec les valeurs de la France. Donc investir massivement dans l'école, dans la reconstruction d'une culture commune. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons investir massivement dans le quatrième thème qui est fier d'être rennais, pour que chacun puisse s'assimiler dans la culture bretonne, dans les valeurs de la France aussi. Et ça, c'est très important et c'est le sens de mon projet.
Alors, dans le projet, j'imagine qu'il y a aussi un volet logement, parce que ça, c'est une grande inquiétude. Alors, aussi bien dans la Bretagne, dans son ensemble, que dans les grandes métropoles, et c'est le cas à Rennes, les Rennais ont du mal à se loger aujourd'hui. Vous parliez du parc des Glaïeuls tout à l'heure, et ses tentes qui ont fleuri dans ce parc. Comment accueillir justement une population et la loger, et comment loger les Bretons aussi? Voilà les deux questions qui reviennent très souvent dans les remarques des auditeurs, par exemple.
Oui. Vous parliez du social, donc déjà mieux accompagné pour revenir sur le chemin du travail. Hein. On a encore 3 millions de chômeurs en France, donc c'est là qu'on doit massivement investir. Et après, en termes de pauvreté, je le disais tout à l'heure, 19% de taux de pauvreté à Rennes. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale. Donc déjà 14%, c'est beaucoup trop, mais 19%, c'est inadmissible. Et beaucoup trop de Rennais, même des cadres d'entreprise ou des personnes qui vivent aussi au SMIC, ne peuvent plus se loger à Rennes. Et là, c'est un des sens fondamentaux justement de ce que j'ai proposé dans le deuxième pilier de mon projet, qui est Rennes pour tous, c'est investir massivement dans le logement. Je m'explique. L'exécutif municipal propose jusque 40% de HLM. Pour moi, c'est contre-productif. Nous voulons rester à la loi 20%. Et proposer un certain nombre de choses pour revoir les critères orientés profession, travail, pour que ceux qui contribuent à l'intérêt général et au bien commun puissent être logés directement à Rennes pour exercer leur métier pour les Rennais. Ça, c'est le premier axe. Et après, relancer la construction. Donc, nous voulons préserver le foncier, donc pas d'extension, mais une densification raisonnée à l'échelle de la ville. Revoir, par exemple, le coefficient de constructibilité pour accueillir ceux qui peuvent se le permettre, notamment aussi pour les HLM. Nous reverrons avec un règlement l'accès à la propriété. Et en ce qui concerne le logement, relancer la construction et revoir aussi en termes d'architecture pour que nous puissions à terme nous réancrer dans notre histoire, dans l'histoire millénaire de Rennes, pour que quand un Rennais arrive, il sache qu'il vit à Rennes et nulle part ailleurs. Et ça, ce sera le sens d'un des axes forts que nous allons proposer, c'est aussi un service notamment de conseil en architecture pour créer un style architectural spécifique rennais. Donc, en ce qui concerne le logement, revoir la politique de logement social, mais sur le parc privé, relancer la construction pour permettre de baisser les prix aussi, densifier de manière raisonnée pour que les Rennais puissent s'installer à Rennes et vivre avoir une vie de qualité. C'est le troisième axe que je propose, donc c'est mieux vivre à Rennes, notamment sur la santé, sur l'écologie, on va en reparler après, mais essentiellement sur le logement, ce sera l'un des trois axes majeurs de ma campagne.
Alors, on va y revenir effectivement sur l'environnement et l'écologie. Je voulais vous entendre aussi sur deux points cruciaux. Les Rennais nous écrivent, sont pas contents de deux choses. Le départ des commerces en centre-ville, c'est un problème. Alors, pas spécifique à Rennes, c'est un petit peu partout dans de nombreuses villes en France et là, en Bretagne aujourd'hui. La circulation, ça devient très compliqué de rouler, de circuler à Rennes.
Alors, sur ce sujet, nous avons rencontré les commerçants depuis 3 mois. Nous effectuons un porte-à-porte avec mon équipe, et ce que nous disent les commerçants, nous les avons d'ailleurs rassemblés au travers d'un atelier avec les commerçants, nous avons fait part d'un certain nombre de propositions, nous avons synthétisé un audit pour reprendre le pouls des commerçants et essayer de comprendre leurs aspirations profondes. Et effectivement, les commerçants sont inquiets. Pourquoi ? Ils voient une baisse de la fréquentation du centre-ville, qui n'est pas sûre. Notamment.
C'est lié finalement au problème de sécurité, le fait que les commerçants s'en vont.
Je pense qu'il est multiple, notamment en termes de sécurité, mais notamment en termes d'accessibilité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes contre la suppression du parking Vilaine. Le projet a été présenté récemment au dernier conseil municipal début décembre, la semaine dernière. Moi, je trouve qu'il y a de l'idée dans la volonté de rénover cette place, de la rendre plus verte. On parlera aussi d'écologie après. Nos places rennaises ne sont pas assez vertes. Donc, ça va dans le bon sens. Après, moi, ce que je trouve inadmissible et ce qui n'est pas normal, c'est que dans ce nouveau projet, il n'y a pas une place de parking. Et beaucoup de commerçants ne vivent pas à Rennes, donc ont besoin d'un accès. Nous avons proposé un certain nombre d'alternatives, nous n'avons pas été écoutés, mais il me semble essentiel de maintenir ce parking ou alors d'avoir des parkings relais ou des alternatives, mais qui n'ont pas pour l'instant été proposées. Donc, le problème de cette baisse de chiffre d'affaires, ce sont notamment l'ultra-violence au travers des manifestations, le phénomène qui s'amplifie, le problème de l'insécurité, effectivement, le problème d'accessibilité et le problème aussi de manquer de vision et de manquer aussi de capacité à valoriser notre patrimoine et peut-être le rendre plus accessible pour les commerçants, pour qu'ils puissent mettre en valeur leur savoir-faire, leurs produits. Et ça, c'est très important et c'est absolument pas fait.
Sur le plan de circulation, il faut plus de transports en commun à Rennes, moins de voitures, des parkings relais, vous en parliez à l'instant, c'est-à-dire des parkings un petit peu à l'écart de la ville, mais qui permettent de laisser la voiture et de prendre des transports en commun. Quelle serait la circulation idéale à Rennes? Alors je sais que vous n'allez pas pouvoir me dire tout ce matin, mais est-ce qu'il faut aller vers soit l'arrêt de la voiture en ville, soit une cohabitation voiture mobilité douce?
Alors clairement non pour l'arrêt de la voiture en ville. Hein. On parlait justement de l'emploi, des classes moyennes. Beaucoup se servent de leur véhicule comme moyen de transport et comme outil de travail. Donc en ce qui me concerne, mon objectif c'est optimiser la place de la voiture en ville. Donc permettre de circuler en voiture avec des véhicules plus propres et aussi faciliter évidemment optimiser notre réseau de transport. Et pour faciliter l'accès à la ville aussi, imaginer un réseau de RER rennais, donc investir dans le ferroviaire, notamment, ce sera l'un des axes que nous allons proposer, avec évidemment la sécurisation des pistes cyclables. Voilà, trop accidentogène en ce moment.
Voilà, parce qu'on entend beaucoup de Rennais qui se plaignent justement de la dangerosité de rouler à vélo à Rennes, hein, tout simplement. Autre sujet qui est important aujourd'hui dans les villes, c'est évidemment l'environnement, c'est la place du vert dans la ville, j'allais le dire comme ça. Rennes est une ville assez minérale, malgré tout, depuis quelques années. Est-ce qu'il faut... Trop. Alors voilà, vous allez nous expliquer. Est-ce qu'il faut planter des arbres? Est-ce qu'il faut ouvrir des espaces? Est-ce qu'il faut finalement penser une ville qui sera confrontée sans doute au changement climatique, au réchauffement climatique?
Oui, c'est l'un de nos axes sur lesquels nous avons beaucoup travaillé avec le mouvement Rennes à droite. C'est d'ailleurs le deuxième axe. C'est permettre la vitalité de la biodiversité et le respect de nos écosystèmes locaux via un projet d'écologie complet. Je m'explique, notamment sur un exemple très concret sur les arbres. L'exécutif municipal avait prévu de planter une quinzaine de milliers d'arbres. Le problème, c'est que seulement un tiers a été planté. Nos places dans le centre-ville de Rennes sont insuffisamment vertes. Donc le projet, l'un des axes, en tout cas sur le projet écologique de l'Espoir Rennais, c'est de replanter partout où c'est possible des arbres, de reverdir toutes nos places et de réarborer aussi tous les grands axes rennais. Notamment aussi, vous venez d'en parler, sur le problème du réchauffement climatique, c'est de manière tout à fait naturelle permettre l'été des zones ombragées pour éviter les îlots de chaleur.
Avec aussi peut-être, là aussi on revient un temps soit peu au logement, mais des logements adaptés aussi peut-être, des nouvelles constructions adaptées à ce réchauffement climatique que l'on va subir.
Exactement, donc en investissant sur la rénovation des maisons en pan de bois, qui doivent être accélérées d'ailleurs, je parlais du sujet patrimoine et culture et ça c'est essentiel.
Vous parliez tout à l'heure de sécurité. J'y reviens, j'avais envie de vous poser une question. Vous avez cité le nom de Bruno Retailleau. Ça ferait un bon Premier ministre, Bruno Retailleau.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Pourquoi voilà, pas donc... Parce que je pense qu'il incarne justement les attentes des Français en termes de sécurité, en termes d'immigration, mais en termes aussi d'une vision d'un Vendéen qui sait ce qu'est une entreprise de taille intermédiaire qui crée localement, donc avec un sens d'une écologie locale. Il avait écrit un très bel ouvrage à ce sujet d'ailleurs. Donc il a l'expérience d'un élu local, aussi une vision pour le pays, et je pense qu'il peut contribuer au renouveau dont les Français ont besoin.
Est-ce que ce qui s'est passé finalement depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier par le président de la République, est-ce que finalement on paie un petit peu le tribut de ces turbulences aujourd'hui à l'échelle locale? Alors, on parlait tout à l'heure d'économie, mais il y a aussi une recomposition de la vie politique. Est-ce que c'est facile, par exemple, aujourd'hui d'être un élu de droite et d'essayer de faire passer ses idées alors qu'on voit quand même une grande instabilité politique?
Oui, on voit une instabilité politique, mais c'est le sens de ma démarche aussi, justement, c'est de me réancrer dans une vision, dans un cap, dans un projet de long terme, notamment avec des mesures d'urgence, mais dessiner Rennes en 2050. Et grâce à Rennes à droite, j'ai rassemblé largement toute la droite. Et maintenant, avec l'Espoir Rennais, la liste que je vais porter aux élections municipales, nous allons rassembler très largement, quel que soit le positionnement politique de la personne sur la base d'un projet et des quatre axes que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc Rennes en sécurité, Rennes pour tous, mieux vivre à Rennes et fier d'être rennais.
À l'échelle nationale, on a vu le président de la République qui ne voulait pas discuter avec LFI ou le Rassemblement national. On sait qu'on a une forme de report à l'échelle locale. Est-ce qu'il faut aujourd'hui se recentrer sur les partis de droite et du centre et oublier les partis tels que le Rassemblement national et LFI, y compris pour des villes comme Rennes ?
Écoutez, moi je crois qu'il faut respecter toutes les sensibilités politiques, il faut respecter 11 millions d'électeurs qui se sont exprimés l'été dernier. Et vous parlez du local, moi ma logique c'est de travailler avec toutes les sensibilités politiques qui veulent l'alternance, quel que soit leur positionnement et leur étiquette. Je ne ferai pas d'accord d'appareil, je l'ai déjà expliqué, mais il faut respecter toutes les sensibilités politiques et travailler avec ceux qui veulent l'alternance. Et ça, c'est fondamental.
C'est une erreur, selon vous, que le président de la République éloigne deux partis qu'il estime extrêmes, pour lui, extrême gauche, extrême droite. Il faut parler, vous le dites, Thomas Rousseau et tout le monde, même si les idées, parfois, les confrontations peuvent être un peu viriles, comme l'on dit.
Moi, je trouvais que la démarche de Michel Barnier, dans le sens de respecter et d'écouter tous les partis, était intéressante parce que c'est le cœur du respect de la démocratie. Donc effectivement, il y a eu une erreur, en tout cas, en ce qui me concerne, la motion de censure ne servait à rien. Elle contribue encore à fragiliser le pays. Donc je n'aurais pas voté cette motion de censure. Mais après, écouter toutes les sensibilités partisanes me semble essentiel parce que c'est l'essence même du respect démocratique et de la Ve République.
Et c'est aussi un esprit breton de co-construire aujourd'hui, y compris politiquement. Est-ce que vous avez peur qu'avec ces turbulences politiques, cet esprit se dilue un petit peu ?
Oui, et c'est pour ça qu'il faut se réancrer dans le local, dans notre culture locale, et voir loin, voir profond, avoir une vraie ambition pour nos concitoyens, et c'est le projet que je porte, notamment Rennes.
Alors, Rennes, aujourd'hui, on l'accuse un peu de tous les maux, particulièrement ceux qui ne sont pas rennais, qui disent, voilà, Rennes draine les entreprises, draine la techno, voilà, en gros, on a un axe Rennes-Brest-Lorient. Quid du reste de la Bretagne ? Est-ce qu'il faut aussi que Rennes s'ouvre au reste de la Bretagne et ne soit pas en concurrence avec ? Alors, c'est une question un peu perfide.
Vous posez une très bonne question et ça me permet justement de préciser la vision de l'espoir rennais. Parce que je trouve que la métropole rennaise, dans un sens assez en ce moment technocratique, a tendance à capter la sève de la région Bretagne. Et moi je pense que, en tout cas c'est le sens de ma démarche, c'est que Rennes redevienne un creuset de valeur pour toute la région Bretagne, qu'elle redevienne une locomotive et qu'elle entraîne et qu'elle permette la création de richesses partout en Bretagne. Donc au lieu d'assécher justement économiquement la région bretonne, elle doit se mettre au service de la région, au service de son territoire. Et ça, c'est ce que nous allons proposer, c'est le sens de ma démarche et c'est le projet que nous allons porter dans les prochains mois à venir.
Si demain il y a une réunification de la Bretagne, ça sera ma dernière question, on a 30 secondes. Si Rennes ne devait plus rester la capitale de la Bretagne, entrerait-on en guerre avec nos voisins nantais ?
Moi je crois que Rennes doit rester la capitale de la Bretagne et je pense qu'elle doit être la capitale économique et culturelle de toute la région Bretagne. C'est un message fort que je vais porter dans les prochains mois et que je porte déjà depuis quelques temps.
Voilà, vous aurez compris, c'était un trait d'esprit pour terminer cet entretien. Thomas Rousseau, secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine, également président du mouvement, et fondateur même du mouvement Rennes à droite, candidat à Rennes pour l'espoir rennais au municipal de 2026. Vous étiez notre invité ce matin en direct. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci Stéphane Hamon.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.